Luc 4, versets 16 à 19. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc c'est le vendredi soir. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. C'est au chapitre 61 de Ésaïe, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est le programme d'action de Jésus, qui est encore le même aujourd'hui, hein. C'est le programme d'action, c'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur sur moi, c'est pas l'esprit du monde, l'esprit du monde systémique qui cherche toujours la domination. L'organisation matérialiste et puis ensuite idéologiste, etc., on en arrive toujours, on serre plus fort la vis sur les personnes, via le matérialisme. Et le summum, c'est l'occultisme, évidemment. Il y a une gradation qui va de plus en plus, les gens vont plonger là-dedans. Mais c'est la voie inéluctable après le matérialisme, l'idéologie de la société et puis l'harcèlement systémique, on va vers l'occultisme parce qu'on croit trouver une espèce de guérison, de paix là-dedans. Voilà. Mais ici, c'est le contraire. Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Alors qu'est-ce que c'est que l'Esprit du Seigneur? Dans Romains 14, 17, c'est mis ceci. Le royaume de Dieu est paix, justice et amour selon Saint-Esprit. Et joie selon Saint-Esprit. Paix, justice, amour et joie selon Saint-Esprit. Vous imaginez que Jésus dit, voilà mon programme. Paix, justice, amour et joie selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire selon l'Esprit divin. Voilà son programme. Romains 14, 17. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est qui les pauvres? Vous savez, derrière les façades brillantes de toutes les maisons, à force d'en avoir fait circuler partout et écouter beaucoup de monde, il y a beaucoup de pauvres. Même des gens, il y a ça deux mois, on était à table, à 11 de notre église, à table avec un homme dont la fortune familiale est de 40 milliards. D'euros. Il était pauvre. Et il nous a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. J'ai quitté ma femme, une deuxième, troisième, ça, troisième, il y a peut-être eu d'autres, probable. Mais ce qu'il y a, il dit, voilà, maintenant tous mes enfants sont divorcés, séparés. La fille aînée qui était très bien, son mari, est devenue lesbienne. Et les enfants sont dans la difficulté. Et de fil en aiguille, pourquoi nous dit-il ça à nous, simplement, à table? Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Il connaît sa pauvreté. Et chacun de nous, si on regarde derrière, on connaît notre pauvreté. Mais il faut la reconnaître, évidemment, pour être enrichi de la pauvreté de Jésus. Il faut être enrichi de la pauvreté de Jésus. C'est extrêmement important, les amis. Jésus a une pauvreté en lui, parce qu'il a une absence d'orgueil, une absence de volonté de pouvoir. Il a une pauvreté qui nous enrichit. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 8. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, c'est humble, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Ah oui, parce qu'il a une puissance en lui divine. Mais ça, c'est le vrai Dieu. Celui qui n'écrase pas, qui ne domine pas, qui n'asservit pas, qui ne fait pas périr. Ça, c'est le vrai Dieu qui se révèle en Jésus. Ça, c'est le vrai Dieu. C'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu de l'amour. Et qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il avait une telle simplicité, une telle façon d'être avec tout le monde, que dans sa pauvreté, il pouvait communiquer sans barrière et sans frontières avec les personnes. J'ai vu une fois un jeune homme qui était profondément en dépression et il avait reçu tellement d'enseignements dans sa famille catholique, il avait la tête bourrée d'un tas de trucs. Moi pas, je venais d'une famille plutôt non bigote. Et je lui dis, t'es parti du compliqué, tu dois aller au plus simple. S'il te plaît, prends 2-3 ans, débarrasse tout et va vers le plus simple. Tout simple, va chercher Jésus, puis c'est tout. Largue le reste. Il m'a écouté et puis 30 ans après, il m'a retéléphoné. Comme quoi, des fois, les paroles ont de l'importance. Alors, dans Luc chapitre 4, Jésus vient pour donner une bonne nouvelle aux pauvres, que nous sommes tous tout compte fait. Hein. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bon, ça c'est quelque chose, le cœur brisé, c'est soit par les souffrances qu'on nous a imposées, par toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas voulu, qu'on a subies, mais aussi c'est parfois parce qu'on a fait des mauvais choix, on est écrasé, ou on souffre à cause des enfants, à cause du couple, de soi-même, peu importe. Il y a souvent des brisements. Et ces brisements-là, Jésus n'est pas venu pour nous piétiner. Il y a toujours eu un profond respect. On va aller voir dans Isaïe ce que dit le prophète Isaïe de la part concernant le Christ. Vous savez que au chapitre 42 d'Esaïe, donc c'est 8 siècles avant, hein, voici mon serviteur, Ebed Yahvé, c'est le nom de Jésus, hein, Ebed, serviteur de Dieu. Vous imaginez, être serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est pas facile non plus. Hein. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Ça, c'est la parole qui apparaît, que la foule entend quand il est dans l'eau, dans le Jourdain. C'est la même parole sur le mont de la Transfiguration au mont Hermon, quand il est en présence d'Élie et de Moïse, de Pierre, Jacques et Jean. C'est la même parole qui est dans Ésaïe 42, verset 1. Alors, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. C'est Sédèque, hein, c'est la sainteté. Hein. Sédèque, hein. Alors, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues. Vous voyez, il n'y a pas de moyens de marketing, de moyens puissants de communication, de moyens de persuasion ou de manipulation. Hein. Parce qu'on est loin de la manipulation dans certaines études pour faire tourner le commerce. Et même la politique. On est très loin, hein? Plus loin que... Il faut lire certains bouquins. On pousse, hein? C'est au-delà, hein? Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Eh bien, ici, Jésus, c'est tout à fait, je vous dis, ça, il est en dehors de tout ça. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre sa voix dans les rues. C'est-à-dire, il n'y a pas un esprit dominateur. Quand Hitler prenait la parole... Il entraînait les foules, et puis quand il rentrait chez lui, il était comme un timoré, un peureux, dégonflé. Il y avait une puissance en lui qui venait de haut. Tandis que Jésus, sa puissance, c'est sa pauvreté, c'est son amour. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'amour n'est pas la monnaie courante. C'est la réussite. C'est la victoire du jeu, du moi. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, c'est la maladie de l'ego, c'est tout. L'ego. Moi-je. C'est ça que Satan avait proposé à Adam et Ève. Alors, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Donc, quand on a soufflé sur une bougie, il y a encore une mèche là, qui fume, il y a une petite braise. Si on envoie de l'oxygène pur, ça se rallume. Et si vous avez un roseau cassé, vous pouvez mettre un tuteur et vous le tenez droit. Ça, c'est l'image des hommes brisés, des hommes abîmés. Eh, il y en a beaucoup. Ça n'arrête pas, je trouve que le nombre augmente. Notre société brise beaucoup, hein. Notre société casse beaucoup de gens, hein. Moi, personnellement, je pensais que le ministère serait peut-être un peu allégé, light, c'est le contraire, hein. On voit qu'il y a des besoins énormes. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, c'est la persévérance, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, donc la sainteté, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut des hommes, bien sûr. Je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. Quelle est la pire des prisons? J'ai été visiteur de prison longtemps à Arlon et à Montmédy. J'aurais toujours dit, quand vous sortirez, la prison, elle est dehors. Il dit oui, ben oui, il y a été quelques fois, lui. Oui, c'est dehors, hein? Évidemment. Et moi, j'ai essayé de ne pas les lâcher, de les suivre, parce qu'autrement, ils étaient mis en prison, hein?
Pas tous.
Alors, ouvrir les yeux des aveugles, faire sortir de prison captifs, de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Il y a des dépressions qui sont de véritables cachots, hein? Et des maladies mentales qui sont de véritables prisons. Hein. Ça fait de la peine à voir. Hein. C'est difficile pour les médecins de soigner ça. Hein. C'est très difficile. Hein. Ils sont face à des réalités pénibles. Hein. Bon, s'ils ont un peu de sentiments et tout ça, ça... Bon, hein, si on tombe dans la routine, caché, piqûre, et puis... Hein. Mais il y a le choix. Ou tu gardes du sentiment, tu prêtes attention aux gens, et puis... Tu vois le paquet qu'ils portent. Et donc, la prison existe pour beaucoup. Je me promenais une fois avec ma femme du côté de Mons. On se promenait, on était bien, faisait bon. Et puis je vois un homme sur le banc. Et c'est souvent comme ça, moi je suis en train de prier, je repense à l'évangile. Souvent, avec Jésus, la pensée de Jésus m'intéresse plus que mes propres pensées. Et je regarde l'homme. Je dis, attends Marie-Hélène, fais 10 mètres, je vais le trouver. Je m'assieds à côté de lui et je dis, monsieur, vous êtes en prison? Oui, depuis que je suis né. Alors j'ai parlé 2-3 minutes avec lui, j'ai prié avec lui, puis je suis parti. Oui, depuis que je suis né, imaginez. Et ici à la maison d'hébergement qu'on a construit, le fils aîné et moi, au village, il y a des jeunes comme ça, abîmés. Beaucoup de 18, 20 ans, avec des pathologies déjà très graves, qui parfois voient le panneau et demandent et prennent leur portable, ils appellent pour que je les reçoive. Et c'est lourd. Moi, je dois dire que le médecin fasse son travail, parce que je ne joue pas au magicien. Et puis, je prends le temps, c'est souvent ici, quand il fait bon, je prends le temps de les écouter, de prier avec eux, et de leur donner un évangile, et puis voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Prier pour eux, oui. Et il y a souvent quelque chose qui se passe, mais ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. C'est Dieu qui agit. Et je demande aussi au médecin de faire son travail. Je prie pour qu'il fasse son travail, qu'il ne fasse pas à moitié, parce que c'est important. Je n'ai rien contre les médecins, je pense que s'ils existent, c'est que Dieu a voulu. Alors, le programme d'action de Jésus, vous l'avez vu. Luc, chapitre 4, versets 16 à 19. Renvoyez libres les opprimés. Donnez aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est du cœur la vue. Quand vous ne voyez plus rien dans la vie, vous ne savez plus où vous allez. Il faut que votre cœur, tout d'un coup, il ait une pensée qu'il y ait une fête en vous. Et vous retrouvez le sens de votre vie. Il faut une fête. C'est très rare les gens qui connaissent cette fête-là. J'ai connu un poète, et il écrivait ça. Tous les 3-4 ans, j'ai une pensée qui est comme une fête en moi et qui m'ouvre aux autres et à la vie. Oui, il y a à un moment donné des fêtes en nous qui sortent. Et c'est ça que j'ai connu en lisant l'Évangile à 16 ans. Alors, chers amis, il y a juste une chose qui est ajoutée, publier une année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que l'année de grâce ? Il faut savoir que ça existait déjà avant le judaïsme. Dans les écrits, dans les tablettes de Mésopotamie, on retrouve tout ça. Ça existait pendant des siècles et des siècles avant Abraham. Mais chez les Juifs, on l'a mis en œuvre de façon systémique. Ça a disparu avec la destruction d'Israël, avec Titus, en 79. C'est que tout Juif qui s'endettait, qui n'avait plus rien à manger, il allait travailler chez un autre Juif, forcément. Et puis, il devenait son mercenaire, son ouvrier. Et il avait tout perdu. La femme et les enfants travaillaient aussi pour ce monsieur ou cette famille-là. Mais tous les 7 ans, il y avait une année de grâce, le compteur était remis à zéro. Celui qui avait acheté la maison, le troupeau et tout, il rendait tout à la personne. Et la personne recommençait à zéro. Tous les 7 ans. Et il y avait une autre cadence tous les 25 ans. Donc sur 25 ans, il y avait eu 4 années de grâce. Dans ce système où la société ne se détruit pas, où certains montent, et les autres descendent tout le temps, il y a une remise à niveau dans la société et il y a une vie de la société assez respectable pour chacun. Certains sont faibles, sont pas doués pour gérer leurs affaires, ils replongent, mais ils ne vont pas jusqu'au fond du panier, tandis que dans notre société, vous vous endettez, vous sombrez, les huissiers et tout. Ici, dans notre maison, on a accueilli des clochards, qui avaient été profs, des gens qui avaient eu des bons métiers, des clochards, qui avaient vécu des mois sans se laver, sous une tribune de football et tout ça. Première chose, l'essuie, le savon, à la douche, et puis ils les mettent à table, vous auriez vu. Ils mangeaient 3 fois ce que l'estomac pouvait prendre. Et il y a donc une situation dans notre société où on ne remet pas à niveau. On pourrait le faire, On pourrait le refaire, Réduire toutes les dettes tous les 7 ans, on pourrait faire ce système. C'est quoi de ça ?
Mais c'est pour te protéger du soleil.
Ah d'accord. Prends soin de ton petit crâne, oui. Oui, j'ai déjà eu des taches cancéreuses en matin. Elle a raison. Brave fille, Bayeux. Donc, 3 braves filles, 3 braves fils. Merci Seigneur. Dans Luc chapitre 9, verset 31, une autre partie du programme de Jésus est quelque chose de déconcertant. Pierre n'a rien compris, les autres disciples n'ont rien compris, mais voilà. Ils l'ont compris un jour, plus tard. Luc 9, 31. Pierre, Jacques et Jean sont sur la montagne, l'Hermon, c'est dans le nord d'Israël. Après la guerre de 67, la guerre dans le Golan, une partie a été reprise, le mont Hermon, et c'est dans les contreforts de ces montagnes-là qu'il y a là, et qui fournit de l'eau au Jourdain. Et alors, je vous lis à partir du verset 28, 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Quand on regarde le texte en grec et qu'on va voir les autres un peu plus loin, au moment de la passion, il parle de sa passion. Il est en train de parler avec Moïse et Élie de sa passion. Et en fait, Dans les textes de l'Ancien Testament, on annonce déjà la passion de Jésus. Donc dans son programme, il y a une passion, il y a une mort sur la croix. Ça, c'est incompréhensible pour les hommes. Pour payer une dette qu'ont les hommes envers le Créateur, envers Dieu. Il veut payer à leur place. Ok ? C'est mieux que le monsieur, la fortune personnelle de 40 milliards, qui nous a donné le vieux bâtiment là-bas en ruine, pour faire un jour un bâtiment d'église. C'est mieux. Lui, il va tout donner. Jésus va tout donner sur la croix. Pourquoi ? Pour payer une dette qui est impayable. Vous regardez sur la terre ce qui se passe, et plus on avance, de quoi est capable l'humanité, hein ? Il y a une dette vis-à-vis du Créateur. Donc, il est là pour la payer. Et ça, ça fait partie de son programme aussi. Vous regardez Luc chapitre 12, verset 50. C'est des versets peut-être qui vous paraissent un peu drôles, pas habituels. Au verset 49, chapitre 12, verset 49 et 50. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Le feu, c'est dans Jérémie chapitre 23, ma parole n'est-elle pas comme un feu qui purifie ? C'est-à-dire, par sa parole, il convainc les gens de changer de vie, d'abandonner l'œuvre du péché, de l'orgueil, quoi, du moi-je, et de se tourner vers lui, vers Dieu. C'est ça le feu. Mais au verset 50, il dit, « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Il a un baptême dont je dois être baptisé. Allons voir dans Marc, chapitre 10, verset 38. On parle de baptême dans toutes les églises. Et suivant les églises, on se dispute. Hein? J'ai été baptisé là, on sera baptisé là, différents baptêmes. Tout ça, c'est du religieux. C'est du religieux. Un seul baptême compte, celui dont parle Jésus ici. L'homme aime bien de singer ce que Dieu a fait. Et il invente des tas de trucs. Ça, c'est la religion. Mais malheureusement, c'est vide de sens, c'est trois quarts du temps. Alors, Marc, chapitre 10, verset 38. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Boire la coupe, c'est-à-dire la colère de Dieu sur l'homme. Je choisis de la prendre sur moi plutôt que vous, parce que vous, il n'en resterait pas un. Je choisis de la prendre sur moi. Pourquoi ? Parce qu'après avoir subi cette colère et avoir subi la mort à la croix, je ressusciterai. Jésus était sûr de ressusciter. Il suffit de lire Jean chapitre 10. Donc il fallait passer par là pour que la dette et la colère soient finies. C'était un moment difficile pour Jésus, mais c'est un moment précieux pour nous, et même pour lui, puisque c'est lui qui continue à agir aujourd'hui. Alors, pouvez-vous être baptisé dans le baptême dont je dois être baptisé ? Le seul baptême qui compte pour nous, c'est ce qui s'est passé au Golgotha à Jérusalem. Quand Jésus est crucifié, lui qui est sans péché, il se présente devant Dieu comme le coupable, comme le pécheur, à notre place. À notre place. Et il porte le jugement jusqu'à la mort. Quand il ressuscite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ressort du tombeau. Donc l'image du baptême, à cette époque-là, baptizo, c'était « je te plonge au fond du cercueil ou de l'eau, je te plonge au fond, tu y restes. » Tu es mort, mais je t'en ressors et tu es vivant. C'est ça le baptême. Ça représente la mort et la résurrection de Jésus. Ça, c'est la clé de l'évangile. Tout le reste n'est pas important. Toutes les discussions sur les baptêmes et tout le reste, si quelqu'un demande dans une église à être baptisé, comme la nôtre par exemple, c'est simplement pour dire merci à Jésus de ce qu'il a fait pour nous. Mais son baptême n'est pas magique, il n'apporte rien, c'est pas un truc de gourou, c'est pas un sacrement, c'est rien du tout, c'est un symbole, simplement un geste pour dire je te remercie, et je porte témoignage aux autres de ce que tu as fait pour moi. de ce que tu es pour moi. C'est ça. Quand on est baptisé dans l'Église évangélique, il n'y a rien de sacramentel. Rien. D'ailleurs, il n'y a pas de sacrement et il n'y a pas de prêtre. Un pasteur n'est pas prêtre. Les prêtres ont été inventés par Cyprien de Carthage en 365. Il n'y avait pas de prêtre dans le christianisme avant. Et les sacrements, 80 ans après, par Augustin d'Hippone, encore en Tunisie. Ce n'est pas dans l'Évangile. On se suffit du baptême de Jésus à la croix et de sa résurrection. Donc le programme de Jésus, c'est une action de sainteté dans le monde, d'amour vers tous les êtres blessés, et il a la puissance de les relever. La deuxième chose, il a un tel amour qu'il paye à notre place la dette. Et elle est réglée. Si on sait ça, on a compris pourquoi Jésus est venu. Quand Jésus se présente à la croix, si vous voulez savoir où dans l'Ancien Testament on en parle, c'est Ésaïe 53. Et dans toutes les synagogues juives aujourd'hui, hassidiques, hein, chapeau, crawl et tout ça, c'est des durs, hein, c'est des intégristes. On ne lit pas Ésaïe 53. J'ai rencontré des juifs qui sont devenus juifs messianiques, chrétiens, et ont dit toute notre jeunesse, même une partie de notre vie adulte, on n'a jamais lu Ésaïe 53. Il a fallu un jour qu'un chrétien évangélique nous le lise en disant, tiens, et réfléchis. Et là, ils ont compris que le Messie Jésus, au Golgotha, Ésaïe 53, c'était lui. Mais c'est difficile, hein, de quitter le judaïsme orthodoxe. C'est aussi difficile que pour un musulman, hein, de sortir, hein. Il est sous la loi dans un cadre très, je vais dire, c'est ça la domination systémique. Il n'y a pas que la finance, il n'y a pas que la politique, il y a la religion organise une domination systémique. Jésus a promis la liberté. Jésus a promis la liberté. Alors, nous allons dans Jean. Il n'y a pas de foi chrétienne sans liberté. Retenez bien, de responsabilité individuelle et personnelle, de libre examen de conscience, ou c'est de la comédie religieuse. Mais la personne ne le sait peut-être pas, elle était conditionnée. Mais il n'y a pas de liberté chrétienne sans relation au Christ, mais il n'y a pas de foi chrétienne sans la liberté. La liberté est une composante de la foi. Alors, prenons... Jean, celui qui croit en moi sera affranchi. Chers amis, si vous le trouvez avant moi, c'est vrai que le soleil il tape quand même. Hein? Non, ça va pas. Ça chauffe de trop en dessous. Je m'excuse. Ça chauffe de trop en dessous. Celui qui croit en moi sera affranchi. Ah, je crois savoir. Voilà, dans Jean chapitre 8. Et ça, qui est-ce qui veut être libre? Beaucoup de gens n'ont même pas conscience, ils se croient libres. Et ils ne le sont pas. C'est ça le problème. Hein? Il faut leur donner le goût de la liberté. Le goût de la liberté, moi, j'ai toujours eu, pour une raison, à 4 ans, la fièvre typhoïde. J'étais sur le point de mourir. Je dis, si je m'en sors, je cherche Dieu. Et quel que soit l'entourage, si on est contre, je le chercherai. Fièvre typhoïde, 3 semaines. Et à 4 ans, vous croyez qu'on ne réfléchit pas? Dis donc, ça tourne dans la tête, hein, dans l'âme. Qui tout double, hein, là. Quand j'ai pris cette décision, si je vis, je chercherai Dieu, même si on est contre ça, ma recherche, pas contre moi, ça c'est de la paranoïa, mais contre ma recherche, je chercherai. Le lendemain, je courrai comme un lapin. Si c'est pas un miracle, ça... Alors, Jean chapitre 8. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, mes enseignés. » quoi. Hein. C'est pas mes soumis, c'est mes enseignés, c'est tout. Enseignés pour réfléchir, pour connaître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Et un peu plus loin, au verset 36, si le Fils, donc Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'un chaussure-pâte peut parler comme ça? C'est tout le contraire, un chaussure-pâte. Il tisse des toiles d'araignée, mais d'une façon intelligente. Je suis tombé dans certains cas, dans des familles où j'ai dû intervenir. Ma parole! Avant que les gens se rendent compte qu'ils étaient manipulés et tout, pour les aider à s'en sortir, c'était tellement pesant, c'était tellement depuis tant d'années, mais Jésus n'a jamais fait ça. Quand il soigna un lépreux, il partait. Quand il a guéri un démoniaque, il partait, on ne le retrouvait pas. Il a guéri l'aveugle-né à la piscine de Siloé. Quand tout le monde lui dit, mais où il est celui-là qui t'a guéri? Ben, je ne sais pas où il est. Pourquoi? Ni fleur ni honneur. Parce qu'il est libre. Parce qu'il est libre. Et dans Matthieu chapitre 4, le symbole même de la liberté, il est affirmé là. Et j'en termine là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas un sociopathe. C'est tout le contraire. Je sais qu'avec Jésus, je peux aider beaucoup de gens à se sortir de leur bourbier. Parce que il est vivant, il fait une œuvre dans les cœurs, dans les âmes. C'est pas moi, hein. Moi, je suis qu'un balayeur de rue, hein. Un facteur qui amène la lettre dans la boîte aux lettres. Je ne fais que servir Jésus, hein. Alors, Matthieu chapitre 4, le diable le transporta, verset 8, sur une montagne très élevée, Jérusalem, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Je te donne toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Retire-toi Satan. Pour tenir tête à Satan, je suis déjà rentré dans des maisons où il y avait des manifestations de ce genre-là. Hein. C'est assez impressionnant. Tenir tête aussi calmement et que c'est le diable qui s'en va, il a quand même quelque chose que moi j'avais pas, parce que moi je priais pour pouvoir sortir vivant de la maison, hein. Là où je suis tombé dans certains trucs, j'ai prié pour sortir vivant de la maison, mais Jésus, c'est le diable qui s'en va. L'autorité de Jésus sur des phénomènes, sur des problèmes d'aujourd'hui est réelle. Je crois à son autorité sur des phénomènes que nous appelons irrationnels. Prions. Seigneur, toi qui as eu la sagesse de nous créer des fleurs et des abeilles, qui nous a donné de telles belles choses à contempler et à admirer, qui sont si bien organisées, qui nous a donné les oiseaux, les lacs, les montagnes, qui nous a donné des enfants, nous admirons ta sainteté, ta sagesse et ton humilité. Tu es sans cesse présent et tu es anonyme. Tu es anonyme, tu es notre bienfaiteur anonyme. Tu es notre mécène suprême anonyme. Car tu veux nous laisser le choix d'aller vers toi. Et je t'en remercie, Seigneur Dieu. Tu as juste envoyé quelqu'un pour nous dire que tu étais là, pour nous montrer qui tu étais. Jésus de Nazareth, je t'en remercie aussi, Seigneur Dieu. C'est un beau cadeau, et ça vaut la peine de regarder ce cadeau que tu nous as envoyé, Jésus de Nazareth, et de l'écouter. C'est un cadeau de revoir, de voir tout ce que tu nous donnes tous les jours. Apprends-nous à admirer, à contempler, à voir les choses dans le merveilleux de ton amour. Apprends-nous à t'admirer. Apprends-nous à nous réjouir en toi. Et comme tu l'as dit, le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, c'est paix, justice, amour et joie selon l'Esprit Saint. Que ton œuvre sainte soit dans nos vies, Seigneur. Fais-nous des êtres libres et heureux. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, fais-nous garder la tête haute, le regard clair. Donne-nous de belles pensées dans nos âmes et dans nos cœurs tous les jours, qui sont comme des fêtes. Au nom de Jésus, amen.
Amen.